Par une froide journée d'hiver, un troupeau de porcs-épics s'était mis en groupe serré pour se garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt, ils ressentirent les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit s'écarter les uns des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu'ils étaient ballottés de ça et de là entre les deux mots jusqu'à ce qu'ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendit la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres. Mais leurs nombreuses manières d'être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau. La distance moyenne qu'ils finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible, c'est la politesse et les belles manières. En Angleterre, on crie à celui qui ne se tient pas à cette distance « Keep your distance ». Par ce moyen, le besoin de se réchauffer n'est, à la vérité, satisfait qu'à moitié. Mais en revanche, on ne ressent pas la blessure des piquants. Cependant, celui qui possède assez de chaleur intérieure propre préfère rester en dehors de la société pour ne pas éprouver de désagrément ni en causer. La conséquence de tout cela est que la société de chacun est inversement proportionnelle à sa valeur intellectuelle. Et dire de quelqu'un « il est sauvage » signifie déjà presque « c'est un homme de qualité ».
Voilà, donc Monsieur Bertrand Fibien vous a admirablement lu deux extraits des aphorismes sur la sagesse dans la vie, donc qui est un des essais des Parerga et Paralipomena, où bon, voilà, on voit se dégager une certaine misanthropie de Schopenhauer, quoi. C'est bon. En fait, voilà, dans ces extraits, on voit bien que Schopenhauer est surtout un continuateur de ce qu'on appelait les théories de l'insociable sociabilité. Donc ça, c'est un concept qu'on doit à Kant, qui en parle dans ses opuscules sur l'histoire. Je crois que c'est dans l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. C'est une idée qu'on doit surtout à Hobbes, en fait, selon laquelle les individus ne se supportent pas entre eux, mais ils ont quand même besoin les uns des autres, pour être très schématique. Voilà, ils ont besoin les uns des autres pour développer leur potentialité, fuir la solitude et l'ennui, surtout qui est pour Schopenhauer est l'insupportable même, puisque c'est ce qui nous fait prendre conscience de notre misérable condition, qui nous fait nous retrouver avec nous-mêmes. Donc en cela, c'est assez proche du divertissement de Pascal. Donc voilà, les hommes en fait inventent toutes sortes de stratagèmes pour fuir l'ennui, et en fait l'un des seuls moyens qu'ils trouvent, c'est d'aller trouver les autres que en fait ils supportent pas d'une certaine manière, et ils ont besoin de toutes sortes de stratagèmes pour s'entendre aussi avec les autres. Donc là, Schopenhauer reprend ce qu'on appelle le panem et circenses, les pains et le jeu. Voilà, pour qu'ils s'entendent, il faut qu'ils jouent ensemble, qu'ils boivent, qu'ils mangent, mais finalement ils sont prêts à tout moment à se faire des crasses, parce que l'égoïsme demeure. Bon, et l'égoïsme demeure, ça on pourra l'expliquer de manière plus fondamentale dans la dernière leçon, mais en gros, l'égoïsme, pour Schopenhauer, c'est vraiment le principe du monde. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le monde, tout est volonté, tout est une même force, et en fait, chaque volonté particulière, c'est-à-dire tous les individus, sont mus par un vouloir particulier, et ce vouloir particulier se prend pour la volonté tout entière qui veut absolument continuer de vouloir indéfiniment.
Ah, c'est ça, la volonté, c'est en fait ce principe qui anime le monde, c'est ça.
Exactement, qui anime tous les êtres, et du coup qui pousse à l'égoïsme, parce que ça, la volonté ne veut rien d'autre que vouloir indéfiniment. Et donc
c'est ce qu'on avait dit au début, ce que vous avez expliqué sur son traumatisme à Toulon, ouais, au bagne de Toulon. Voilà, cette prise de conscience que l'homme est tout le temps pris par un désir qu'il n'arrive pas à assouvir.
Exactement, exactement. Le principe du monde, c'est un désir, et ce désir ne pourra jamais être satisfait tel quel. Oui, et d'ailleurs, il y a une phrase très désenchantée par rapport à ça, c'est « Entre les désirs et leur satisfaction s'écoule toute la vie humaine », voilà, qui est assez connue. Mais voilà, c'est pour ça que l'égoïsme est vraiment au principe du monde. Parce que voilà, il faut toujours continuer de vouloir indéfiniment, et je regarde d'abord ma volonté avant de regarder celle des autres, et du coup c'est pas faire le mal volontairement, être égoïste, mais c'est regarder d'abord mon bien avant de regarder celui des autres. Regarder d'abord celui des autres, ce serait ce que Schopenhauer appelle la pitié ou la compassion. Bon,
et chacun, voilà, tout le monde est égoïste, quoi, chez Schopenhauer. C'est pour ça.
Alors,
que
pas tout le monde, mais alors, en fait, il y a trois types de motifs de volonté pour Schopenhauer. Il y a l'égoïsme qui est le plus partagé, que ce soit par les hommes ou les animaux. Mm-hmm. C'est la recherche de son bien avant toute chose, sans forcément de considération pour le reste. Il y en a un autre qui est encore pire, c'est la méchanceté. C'est la recherche, avant de son propre bien, du mal des autres.
D'accord.
C'est, c'est les sadiques, quoi. C'est retirer un plaisir plus grand à voir les autres souffrir que à se faire du bien soi-même, ouais, d'une certaine manière. Et il y a un troisième motif de volonté qui est le plus rare, mais qui existe, c'est la pitié ou la compassion. Et là, le motif premier de la volonté, c'est le bien d'autrui, avant le sien. Donc je vais en parler dans
ma leçon. Ça, seuls certains élus pas y présents.
Ouais, c'est ce qu'il appelle les sages, ou les ascètes. C'est ceux qui...
Et il en fait partie, selon lui,
Non, je crois pas qu'il revendique ça, et de fait, dans sa vie, il n'en fait pas du tout partie. Parce que c'était un petit peu un connard, quand même. Et... bon, voilà, c'est, ça arrive, hein, mais...
non, mais il y a notamment... connarditude.
Ouais, de connarditude, bon, que, effectivement, je prends un peu comme synonyme de thug, parce que, bon, pour être un thug, parfois...
Pour faire entrer tout dans le sujet, ça fonctionne.
Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais bon, alors, un des épisodes les pires de Schopenhauer au niveau de sa connardise, c'est qu'il a quand même fait monter chez lui des militaires de l'armée régulière pour mater des révolutionnaires allemands de 1848.
Parce qu'ils étaient chez lui, les révolutionnaires ?
Ils étaient pas très loin de chez lui. Il y avait des combats et les militaires étaient en difficulté. Et Schopenhauer l'a dit, montez sur mon toit, vous pourrez leur tirer dessus, je vous passe ma lunette.
Ah d'accord, même. Carrément.
C'était, ils me font chier, j'ai envie de bosser
quel
tranquille. Voilà. Donc non, Schopenhauer ne vivait pas tout à fait en accord avec sa philosophie,
oui,
qui est pourtant très belle. Mais bon, alors. Donc ouais, d'ailleurs, lui-même, voilà, il vivait seul avec son caniche. Et son caniche, ce qui est assez marrant, c'est qu'il l'a appelé Atma. Et Atma, en sanskrit, ça veut dire l'âme du monde. Donc voilà, pour lui, l'âme du monde, c'était son chien. Et voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est assez drôle quand même. Son chien, Atma, il lui a légué la majorité de sa fortune. Et ça, c'est un des autres aspects très... très marquant de la philosophie de Schopenhauer, c'est sa compassion envers les animaux. C'est limite, il préférait la compagnie des animaux que celle des hommes. Parce que, voilà, eux, au moins, les hommes, le problème, c'est qu'ils ont la capacité de raison. Les animaux ont un entendement, mais ils n'ont pas la capacité de former des concepts abstraits. Ils n'ont pas la capacité de réflexion. Et en fait, le problème, c'est que les hommes, acquérant la capacité de former des concepts et la réflexion, peuvent anticiper des désirs, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas que dans l'instant présent, mais ils ont aussi des souvenirs du passé, ils peuvent anticiper dans l'avenir. Et ça, le fait de pouvoir anticiper dans l'avenir, ça permet de créer la manigance, je cherche un synonyme, manigance... Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Oui, bon.
Et par rapport à sa compassion envers les animaux, il y a une phrase assez célèbre d'Eppar Erga, c'est... Le plus grand bienfait des chemins de fer est qu'ils épargnent à des millions de chevaux, de trait une existence misérable. Voilà, c'est le seul bienfait des chemins de fer. Et sinon, j'ai un autre extrait un peu plus long, c'est « Je dois l'avouer sincèrement, la vue de tout animal me réjouit aussitôt et m'épanouit le cœur. Surtout la vue des chiens, et puis de tous les animaux en liberté, des oiseaux, des insectes, etc. Au contraire, la vue des hommes excite presque toujours en moi une aversion prononcée, car il m'offre à peu d'exceptions près le spectacle des difformités les plus affreuses et les plus variées. Laideur physique, expression morale de passion basse et d'ambition misérable, symptômes de folie et de perversité de toutes sortes et de toute grandeur. Enfin, une corruption sordide, fruit et résultat d'habitudes dégradantes. Aussi, je me détourne d'eux et je fuis vers la nature, heureux d'y rencontrer les bêtes. »
C'est vrai qu'il a raison, qu'on trouve plus souvent des hommes ou des femmes moches que des chats ou des chiens moches. Je t'ai jamais fait la remarque, mais...
C'est vrai. Oh, il y a quand même des chiens qui sont pas beaux du tout, hein.
Ouais, quand il leur manque une patte, c'est quoi?
Ouais, non, je sais pas. Ouais, bon.
Vous êtes pas fan de chiens?
Non, pas trop. Pas trop. Mais bon. Bon, voilà. Là, par ces extraits, on voit que c'est un thug qui clash tout le monde, quoi. Encore une fois, hein. C'est bon.
Sauf son chien.
Sauf son chien.
Non, mais quand je dis. C'est très thug, ça.
Ouais. Non, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas seulement les Allemands, les Hegel et tout, c'est l'humanité entière. Là, dans les extraits, notamment le très bel apologue des porcs épiques que Bertrand Fibien nous a lu, c'est vraiment ça. Voilà, il dit presque que les chiens valent mieux que les hommes. Vraiment. Ça, je l'ai rappelé, voilà, c'est un système enfin. Tout ça, ça s'explique un peu par son système philosophique dans lequel il fait l'égoïsme le moteur du monde. Bon, mais. Voilà, en fait, le problème, c'est que l'homme est le seul animal capable de faire du mal à un autre sans autre but que celui-ci. C'est le seul à être capable de... qui peut faire preuve de méchanceté, qui peut être mu par un motif de méchanceté.
Ah, le mal en soi, il aurait récusé l'expression ou...
je sais pas. Faudrait lui demander.
On passera un coup de fil à la fin de l'émission.
Voilà.
Ouais, mais vu que bon, donc du coup, il y a les égoïstes, les méchants et enfin, la pitié.
Ouais, les
est-ce
sages.
Que si, ouais, les sages. Est-ce que du coup, il y a des, s'il y a que des animaux, enfin, que des hommes méchants, est-ce qu'il y a aussi que des hommes sages?
Oui.
Oui.
Oui. Non, ça n'existe
oui,
pas. Oui, parce que.
Vous voulez dire, on peut pas mélanger les deux. On peut pas être sage.
D'après ce que je comprends de ce que dit Bertrand, c'est qu'un animal ne peut pas faire preuve tout à fait de compassion envers un autre. Il faudrait vérifier quand même, mais d'après mon souvenir, la compassion, ça suppose quand même la réflexion.
Ouais, donc les concepts.
Mais en même temps, non. Je suis pas sûr. Faut vérifier parce que la pitié, en même temps, ça naît d'une. Bon, c'est une intuition intellectuelle. C'est-à-dire que c'est une intuition qui, bah, c'est l'empathie, hein, c'est ce qu'on appelle l'empathie aujourd'hui. Je souffre en autrui. Non, mais c'est une réflexion. Parce que c'est une représentation. C'est parce que je me figure que je pourrais être à sa place. Et pour ça, ça suppose de faire preuve de réflexion, d'introspection. Et d'ailleurs, par exemple, il dit que les pleurs, le fait de pleurer, c'est le fait, en fait, d'avoir pitié de soi-même. C'est de se dire que si un autre était à ma place, j'aurais pitié de lui. Mais pitié, c'est pas du tout péjoratif, hein, quand on dit j'ai pitié, c'est j'aurais de la compassion pour lui.
Ouais.
Donc ça suppose, même les pleurs, ça suppose une représentation. Mais ouais, ce qui est paradoxal, parce qu'il y a des animaux qui pleurent.
Oui.
Ouais, bon. Mais c'est à vérifier quand même, hein, j'ai un petit doute à ce sujet, mais bon. Mais bon, par rapport à sa détestation des hommes et son caractère un peu bâtard, c'est une transition toute choisie pour parler de son ambiguïté vis-à-vis des juifs. Parce que, bon, ça fait partie des malentendus, mais qui sont pas tout à fait faux non plus. Schopenhauer est catalogué comme un antisémite notoire. Et c'est bien triste, puisque, bon, il y a peut-être une part de vérité là-dedans.
Dans quoi ?
Dans son antisémitisme. Parce que, bon, il y a des phrases parfois.
C'est vrai qu'il était antisémite, quoi.
Ouais, plus ou moins. Bah, je vais en parler, mais le problème, c'est que j'ai oublié de prendre des passages sur les juifs. C'est jamais aussi violent que les hommes en général. Hein. C'est des petites piques envoyées. Mais bon, je trouve plus. Je suis désolé. Mais en fait, on peut supposer que l'une des raisons à cela, au fait qu'on le taxe d'antisémite et que effectivement, il a parfois des mots un peu durs envers les juifs. C'est que en fait, il avait appris. C'est assez stupide, hein, mais il avait appris que Spinoza, Baruch Spinoza,
oui, philosophe,
éminent philosophe du XVIIe siècle, donc Spinoza qui était juif, avait pour hobby de torturer des araignées. Et donc lui, il supporte pas, voilà, torturer des araignées, il y a rien de pire, c'est la méchanceté gratuite. Et en tout cas, il a un problème avec les juifs. Je sais pas
si c'est particulièrement con quand même.
En fait, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un motif bien futile, mais bon, tout motif raciste, me direz-vous, n'est-il pas toujours d'une bêtise sans nom?
Oui.
Non. Mais bon, en fait, je pense qu'il faut quand même être prudent, parce qu'en fait, s'il critique vertement le judaïsme, ce n'est pas à une race qu'il s'en prend.
C'est
plus le judaïsme que les juifs. Ouais, une religion aussi, une culture, parce que moi, bon, il est toujours un peu comme ça sur ouais cette culture dégénérée. Il dit ça à propos de beaucoup de choses. En fait, il reproche au judaïsme et notamment à l'Ancien Testament d'être un livre optimiste, d'être un livre en fait trompeur, berneur, qui pousse les hommes à espérer des tas de choses qu'ils n'obtiendront jamais et que voilà, du coup c'est le livre optimiste par excellence pour lui, l'Ancien Testament. Alors qu'au contraire, le Nouveau Testament, il a beaucoup plus d'estime pour lui, parce qu'il considère que c'est un livre qui pousse plus à la privation, à l'ascétisme, et du coup à la compassion, la pitié, la sainteté.
D'accord.
Voilà, bon. Donc, en fait, je pense qu'il faut être prudent, parce que Schopenhauer rejetait quand même toutes les théories de supériorité des races, qui pourtant fleurissaient à cette époque. Hein. Ouais. On est, voilà, 19e siècle, ça commence. Et bon, aussi, il condamnait fermement l'esclavage, et c'était, bon, ça doit être souligné. Et bon, en plus, il s'en prend beaucoup au judaïsme, mais ça lui arrive aussi beaucoup de s'en prendre au christianisme et à l'islam. Il a des mots très durs hein, envers l'islam. Par exemple, il dit le Coran, c'est le livre le plus stupide qui a été fait sur Terre. Il n'y a aucune profondeur derrière. Bon, voilà, c'est... Mais bon, on a beaucoup retenu sur les Juifs parce que c'était ambigu. En plus, voilà, c'est la période, c'était la période où ça florissait, quoi. Bon, mais voilà, il y a une critique aussi des prêtres en général qui exploitent le besoin, ce qu'il appelle le besoin métaphysique de l'humanité, c'est-à-dire le fait qu'on se pose des questions, qu'on a besoin de savoir, de connaître une cause première. Et voilà. Et en fait, ils clashent beaucoup les prêtres parce que ils exploitent ce besoin et ils en vivent. Et c'est pareil pour les profs de philo. Alors. Dernière partie dans cette leçon sur Schopenhauer Tug vis-à-vis des hommes en général. Là, on va parler d'hommes bien particuliers puisqu'il s'agit des femmes. Alors oui, ça c'est vraiment un aspect terrible de sa philosophie et de son caractère. Bon, c'est à la fois parfois très drôle, mais c'est terrible et c'est ridicule. Enfin, c'est dommage presque. Mais Schopenhauer, ça c'est incontestable, est vraiment un gros misogyne. Et sa grande misogynie, bon, c'est ce que je dis, Monsieur Tug, on n'est pas toujours d'accord à ce sujet, mais une misogynie qu'on retrouve dans certains textes de rap.
Tout dans certains, je suis d'accord.
On pourra l'exemplifier.
Tout à fait.
Et bon, en fait,
malheureusement.
Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure. Cette misogynie a joué un grand rôle quand même dans la consécration, en même temps que la mauvaise réputation de l'auteur. Hein. C'est un peu ce qui a contribué à le rendre célèbre, c'est son essai sur les femmes.
C'était une consécration au sens positif, c'est-à-dire ça l'a rendu
sa célébrité.
Fois, oui, d'accord, juste célèbre. Mais donc malheureusement célèbre.
Hein. Ben ouais, à la fois malheureusement célèbre parce qu'on a commencé à lire que ses textes. Et après, heureusement célèbre parce que les gens ont commencé à lire Le Monde comme volonté et représentation et ne se sont pas arrêtés à la caricature qu'on en a fait.
D'accord. C'est-à-dire que les gens se sont dit, ah, ce mec, c'est un gros misogyne, on veut lire ses livres. Et après, ils se sont dit, ah, ben, finalement, c'est intéressant.
C'est un peu ça, ouais, certains. Oui. Bon, peut-être qu'on fait un gros raccourci, là, mais je crois qu'il y a un peu de ça quand même. En tout cas, les gens ont commencé par lire les parergas. C'est-à-dire, bon, l'essai sur les femmes. En fait, je pense que, voilà, l'épisode du Schopenhauerien typique, ça a été quelque chose comme ça. Il a lu l'essai sur les femmes. Après, il a lu d'autres essais dans les parergas. Notamment les aphorismes sur la sagesse, qui sont quand même très bons, ou d'autres extraits où il fait une vulgarisation du monde. Il a vu qu'il parlait du monde et il s'est dit, je vais aller voir. Et là, bam. Éclair de lucidité, c'est un génie. Voilà. Donc oui, cet essai sur les femmes, pour en parler un petit peu, c'est un essai en fait, voilà, très très violent comme je dis, dans lequel il qualifie les femmes de puériles, futiles et bornées. Pour lui, elles ne sont qu'une sorte d'intermédiaire entre l'enfant et l'homme. Et voilà, il y a tout un tas de clichés dégueulasses. La femme est dépensière, traître et injuste. Et bon, comme je disais, dans ça, on peut voir un peu un règlement de compte avec sa mère, hein, qu'il a haï jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'épisode de la mort de son père, quand il écrit dessus, il dit « Voilà l'amour des femmes ». Il y a des échanges de lettres avec sa mère aussi, où comment dire, il lui dit des choses terribles. Hein. Enfin, il y a une séparation totale et il lui dit quelque chose qui est assez vrai d'ailleurs. Il lui dit tes livres seront oubliés d'ici 20 ans alors que moi on me lira encore dans 300 ans. Et il a eu raison sur ce point. Mais bon voilà, j'ai quelques extraits là à vous lire toujours dans l'art de l'insulte sur les femmes qui sont vraiment qui sont bon, assez drôles quand même, il faut le dire. Bon, y en a un assez court là qui est intitulé La femme, le beau sexe. Alors, qualifier de beau ce sexe de petite taille, aux épaules étroites, aux hanches larges et aux jambes courtes, ne peut être que le fait d'un intellect masculin troublé par l'instinct sexuel.
Cool.
Donc en gros, on dit que voilà, les femmes sont belles, mais lui dit, mais comment on peut dire qu'elles sont belles alors qu'elles sont toutes petites, elles ont des épaules étroites, des hanches larges, des jambes, elles sont toutes disproportionnées, quoi. Et pour lui, c'est si on les trouve belles, c'est parce que notre intellect masculin est troublé par l'instinct sexuel.
Ouais,
c'est voilà, c'est le sexe qui parle. Et j'en ai un autre toujours dans le même extrait sur la dame, alors, entre guillemets, c'est-à-dire le fait que c'est-à-dire, c'est un peu sur la galanterie, en fait. Le fait qu'on appelle, voilà, on dit c'est une dame, c'est une femme d'envergure, d'importance, on va lui la laisser passer, lui ouvrir la porte, voilà. Alors, je vous lis. La femme en Occident appelée dame se trouve dans une fausse position. Car la femme que les anciens appelaient avec raison sexus sequior, donc le sexe inférieur, n'est nullement apte à être l'objet de notre respect et de notre vénération, à tenir la tête plus haut que ne le fait l'homme et à avoir les mêmes droits que lui. Les conséquences de cette fausse position, nous les voyons assez. Il serait donc très souhaitable qu'en Europe aussi on assigne à ce on assigne de nouveau à ce numéro 2 du genre humain sa place naturelle et que l'on fixe un but à cette calamité que sont les dames, dont ne rit pas seulement toute l'Asie, mais dont aurait ri tout autant la Grèce et Rome. Un but dont les conséquences du point de vue social, bourgeois et politique seraient un bienfait inappréciable. La véritable dame européenne est une créature qui ne devrait absolument pas exister. Mais il devrait y avoir des ménagères et des jeunes filles qui espèrent le devenir et auxquelles par conséquent on enseigne non pas l'arrogance, mais l'amour du foyer et la soumission.
C'est fou comment un pauvre type comme ça, il a pu être un peu intelligent des fois. Enfin,
ben ouais, c'est un mystère. Hein. C'est vraiment un mystère. J'expliquerai jamais parce que on va le voir. Moi, je trouve que c'est une philosophie qui est vraiment magnifique et voilà, qui en plus enjoint à la morale. Mais bon, par ailleurs, il y a des choses. C'est du grand n'importe
complètement
quoi.
Complètement incompréhensible.
Voilà, et là, bon, même si les textes sont un peu rigolos, enfin, on est quand même dans, voilà, la connerie pure. Et c'est de la thuguitude un peu gratuite, on pourrait dire. Et bon, mais d'ailleurs, si je me marre, c'est justement parce que c'est ridicule. Et ça me fait penser, voilà. C'est vrai que, en plus, spontanément, quand on lit ça, on pourrait penser, comme dit Nietzsche, que c'est quoi ce mec? C'est un énorme frustré sexuel. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui prend? Voilà.
Ouais, ou c'est... même pas sexuel. Finalement, ce mec, il a pris deux râteaux quand il était jeune, on a compris. Il a jamais connu l'amour, tout simplement, même. Parce que frustré sexuel, non, vous avez dit que finalement,
oui,
il allait voir des prostituées.
Ouais, c'est vrai.
C'est juste qu'il a pas connu.
Non mais c'est je crois que
les rapports positifs aussi bien qu'avec les hommes qu'avec les femmes finalement j'ai l'impression.
Ouais c'est ça. Mais bon, je pense que voilà, il y a vraiment le traumatisme de la rupture avec sa mère qui l'a eu jusqu'au bout, il est persuadé qu'elle est responsable du suicide de son père et après je vais en parler après peut-être un petit son. Je pense que malheureusement même si sa philosophie est très belle, elle explique sa philosophie, son système philosophique explique sa misogynie.
Ah bon.
Ouais. On peut en parler juste après.
C'est assez terrible ce que vous dites. Donc on va s'écouter un son, c'est ça, un peu misogyne.
Ouais. Il en est comme il en existe.
Them freaks get deep at the sight of an ATM receipt. But game been beat, dropping names, she's weak, tricking off. my ace test is flawless regardless. We don't wanna get involved with all them lawyers and judges just to hold grudges in the courtroom. I wanna see your support, bro, and I support you.
Outcast. Donc un petit son, voilà, avec une certaine dose de misogynie, mais moi personnellement, comme c'était en anglais, j'ai pas compris.
Voilà.
Et du coup, ça passe mieux. Hein, ce...
Exactement.
Mais alors voilà, vous écoutez bien Mountain Was a Thug sur le 102.2, la plus rebelle des radios, Radio Canu, avec une émission aujourd'hui sur ce philosophe particulier qui est Schopenhauer en compagnie de Eugène Ionegro.
Voilà, oui, c'est vrai qu'on est sur la plus rebelle des radios, mais je parle un peu d'un mec un peu réac, mais bon, on va essayer de quand même de montrer. Enfin,
réac, misogyne, quoi, on
voilà,
est allé, quoi.
C'est... Bon, on dirait plutôt
on est rebelle parmi les rebelles, on fait voilà. Chier les rebelles.
C'est ça, on dirait, ouais. Comme ça, on dirait plutôt un petit facho, mais bon, j'essaierai de montrer en fin d'émission en quoi c'est peut-être le plus grand des rebelles.
Ah bon? Parce ouais. Que là, vous allez nous expliquer, en fait, vous avez parlé de sa misogynie et vous nous avez ouais. Dit qu'elle était un peu une... qu'elle pouvait s'expliquer par son système philosophique, voilà, sa manière et de comprendre le monde. Alors vous allez voilà nous parler justement de ça, de sa manière, de son système philosophique, sa pensée.
Et oui, malheureusement, j'arrête pas de répéter que c'est une très belle philosophie, mais c'est vrai que quand même, c'est sa philosophie qui motive un peu d'une certaine manière sa misogynie, malheureusement. Bon, alors je vais essayer d'expliquer. Donc voilà, il y a une certaine conception du monde, un système philosophique et qui pourrait expliquer ça. Et c'est là que ça va devenir très technique quand même, hein, parce que je vais devoir essayer de vulgariser toute la philosophie de Schopenhauer.
Oh là 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 là. Alors peut-être qu'on va s'écouter juste un petit son de détente là, tranquille, pour se mettre à l'aise avant de partir dans les hautes sphères. Voilà, c'est le petit son de détente à Radio Canu. Et maintenant, on peut partir.
Et maintenant, ça va chier. Bon. Voilà. Bon, alors, oui, ça va être pour tenter d'expliquer ces textes terribles à l'égard des femmes et aussi pour faire la transition vers la partie suivante ou qui sera vraiment la plus philosophique de toutes. Alors. La philosophie de Schopenhauer.
On est chaud.
Part de Kant. Je l'ai dit tout à l'heure. Elle part de Kant et avant tout de sa distinction chose en soi phénomène. Bon, jusque-là, on en a parlé tout à l'heure. Bon. Donc, pour Schopenhauer, cette distinction chose en soi phénomène est l'un des acquis fondamentaux de toute l'histoire de la philosophie. Le monde sur lequel je projette les catégories de mon entendement est ma représentation. C'est même la première phrase du livre Le monde comme volonté représentation, c'est « Le monde est ma représentation ». C'est-à-dire, voilà, j'y accède à un certain point de vue, j'en ai une représentation qui m'est propre. Donc Kant déduit du fait que tout ce que je perçois est toujours d'ordre phénoménal, est toujours une représentation que je forge, que je ne peux connaître la chose en soi. Je ne peux connaître que la chose en moi ou pour moi, si l'on veut, parce que je n'en aurai toujours qu'un seul accès extérieur et je ne peux m'empêcher de percevoir les choses par le prisme des lunettes, on pourrait dire des catégories. Donc les catégories, je l'ai dit tout à l'heure, c'est identité, causalité, et dans les formes a priori de l'intuition, l'espace et le temps. Bon, Schopenhauer, c'est le premier geste de sa philosophie, se demande si le fait qu'il n'y ait que des représentations me condamne réellement à ne jamais connaître la chose en soi, et sa réponse est négative. Parce que, si tous les objets du monde sont des représentations, il existe au moins un objet auquel je n'ai pas un accès seulement représentatif, auquel j'ai un double accès. Cet objet, c'est le cannabis. Non, je rigole. Comme dirait Victor Kershoui. Petite dédicace. Bon, alors là, oui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez que c'est quand même ancré dans l'expérience. Hein. On va partir des objets du monde. On va partir d'un objet du monde en particulier, auquel, comme j'ai dit, je n'ai pas un accès seulement représentatif, puisque j'ai un double accès. Et cet objet, en fait, c'est mon corps. Parce que mon corps, j'y ai un accès à la fois extérieur. Par exemple, je lève le bras, je vois mon bras en train de se lever, j'ai un accès extérieur, j'en ai une représentation. Mais j'en ai aussi un accès intérieur. Et c'est le seul. Je peux pas avoir un accès intérieur à ce livre, par exemple. Mais je peux avoir un accès intérieur à mon corps. Je peux faire ce qu'on appelle une introspection. Et qu'est-ce que je trouve dans cet objet corps propre quand j'ai un accès intérieur? C'est, dit Schopenhauer, simplement du plaisir et de la douleur.
Des affects.
Ouais, exactement. C'est des affects, c'est des sensations pures. Et justement, ce n'est pas des représentations. Et c'est la seule chose que je peux, ce que je perçois dans cet objet bien particulier qui est mon corps, c'est justement, ce n'est pas une représentation. Donc voilà, c'est des intuitions sensibles. Et Schopenhauer rappelle que douleur et plaisir ne procèdent que de la volonté. La volonté, selon qu'elle est entravée ou satisfaite, j'éprouve l'un ou l'autre. Si elle est entravée, j'éprouve de la douleur. Si elle est satisfaite, j'éprouve du plaisir. Et donc la question qu'il pose à partir de ce constat, il existe au moins un objet du monde auquel j'ai un accès aussi intérieur, auquel j'ai un double accès, et auquel j'ai un accès qui n'est pas seulement représentatif, mais aussi intuitif, c'est pourquoi cette volonté n'existerait que dans mon corps, et pas dans celui des autres. Et là, c'est aussi encore un petit clash au passage de la philosophie occidentale et de ce qu'il appelle l'égoïsme théorique, c'est-à-dire du solipsisme, le fait de dire si ça se trouve, je suis le seul à exister, tout le reste, ça n'existe pas. Mmh. Voilà, c'est Descartes, Berkeley, typiquement. Voilà, donc, question qu'il pose, pourquoi cette volonté n'existerait que dans mon corps et pas dans celui des autres? Et même, pourquoi n'existerait-il pas dans les corps animaux et encore plus dans les corps inanimés? Ça, c'est vraiment la question qu'il pose, parce que si on prend la volonté comme paradigme de la nature, une fois qu'on a fait ça, on voit que ça marche. Parce que si on pense à des êtres inanimés, des phénomènes du monde, comme les typhons, les tremblements de terre, on peut voir que c'est quand même toujours une force à l'œuvre, comme si y a toujours du mouvement, on va dire, dans la nature. Et ça, c'est pour Schopenhauer, s'il y a du mouvement, c'est parce que toute chose est mue par un désir, par cette volonté qui fait que le monde existe, en fait, que le monde, comme représentation, existe. Alors, je me suis un peu perdu. Voilà, il y a du mouvement permanent, une force à l'œuvre, ne serait-ce que parce que ce monde perdure et que il agit en permanence, ne serait-ce que parce qu'il y a du vent qui souffle, qu'il y a des typhons, des tremblements de terre, tout ce genre de choses. Donc, de là, à partir de l'expérience, hein, il tire une leçon de l'expérience, du fait que j'ai un accès intérieur à mon propre corps et que ce que j'y trouve, c'est de la volonté, il en déduit que le monde est volonté. Et ça va être le concept fondamental, c'est la volonté. Le monde est volonté, le monde est comme volonté. C'est le monde comme volonté et comme représentation. C'est-à-dire que, dans son essence, le monde est volonté, mais il se phénoménalise, il s'objective, on dit, dans la représentation.
Et nous, n'y avons accès qu'à travers la représentation. C'est ça aussi.
Voilà, on y a surtout accès à travers la représentation, mais on peut voir que si on fait cette expérience qu'il a faite de l'introspection dans son corps, on y a aussi un accès intuitif, et on se ressent soi-même comme volonté. Que, en fait, finalement, ce que veut dire Schopenhauer, c'est que quand je veux, c'est le monde qui veut à travers moi. Parce que le monde est la volonté. Voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué? Et en fait, voilà, c'est-à-dire que à l'origine, fondamentalement, le monde, c'est la volonté, c'est ce qui fait qu'il perdure sans cesse. Enfin, en fait, ce qui fait que le monde perdure, qu'il continue d'exister toujours, c'est qu'il se veut. Et c'est un vouloir qui, à l'origine, est aveugle, c'est une force. Mais le monde comme volonté peut s'objectiver, se phénoménaliser, comme je l'ai dit, dans le monde de la représentation, celui où nous percevons les phénomènes. Voilà. Là, actuellement, nous sommes dans le monde de la représentation, typiquement, quand je perçois Monsieur Bertrand Fibien, Monsieur Tug, et Monsieur Zieglig...
Coiffe-tout,
voilà. Je suis dans la représentation, j'ai une certaine représentation de vous êtes des phénomènes pour moi. Ça s'explique parce que la volonté qui était un pur vouloir aveugle, qui ne connaissait rien, arrive à connaître ce qu'elle veut en s'objectivant dans des vouloirs particuliers. C'est-à-dire que moi, je, par exemple, si je, j'ai envie de, d'un kebab là, je sais que je le veux. Et en fait, c'est le monde comme volonté qui veut en moi et qui arrive à savoir ce qu'elle veut parce que, en s'objectivant dans un phénomène, elle acquiert un intellect. Voilà, bon, c'est un petit peu technique, hein, mais fondamentalement, en fait, c'est là qu'on entre dans la philosophie tragique de Schopenhauer. Quand je veux, c'est toujours quand même le monde qui veut à travers moi et qui, fondamentalement, même si je peux dire que je veux un kebab ou quelque chose de très précis, hein, je sais pas, je veux aller au cinéma ce soir, je sais ce que c'est ça que je veux. C'est quand même le monde qui veut à travers moi, et le désir fondamental du monde, c'est de ne désirer que soi-même. C'est-à-dire que le monde comme volonté ne veut rien d'autre que continuer à vouloir indéfiniment. Mais en fait, ayant acquis un intellect dans ces phénomènes animaux, elle se donne des motifs de volonté, mais ces motifs sont tous illusoires, parce qu'ils participent tous d'un même désir fondamental, qui est de toujours continuer de vouloir. Et c'est parce que le monde continue toujours de vouloir que le monde, comme représentation, continue d'exister. Ça va, je vous ai pas trop perdu ?
Ça va, ça va.
Ça va, bon. Alors, de fait, si tous les motifs de volonté sont illusoires, parce que tous participent du même désir fondamental, qui est la volonté qui se veut elle-même, finalement, le monde veut absurdement, pour rien, parce que tous nos efforts et nos souffrances sont vains. Et ceci parce que le vouloir particulier est lui-même un synonyme de souffrance, en plus. Là, c'est l'héritage de Platon, hein, de Schopenhauer, parce que vouloir, fondamentalement, c'est être en manque d'eux. Oui. Donc vouloir, c'est souffrir, en fait. Quand je veux, je souffre, parce que je suis en manque de cette chose, et ça me coûte de ne pas l'avoir tout de suite. Et ce qui est terrible, c'est qu'une fois que j'ai obtenu la chose, je suis fatalement toujours déçu. Une fois que j'ai eu la chose, je m'étais fait une idée de mon désir, de sa satisfaction, et pour Schopenhauer, on est toujours déçu une fois qu'on satisfait la chose. Et surtout, je suis déçu, mais le plus terrible, c'est qu'une fois que je l'ai satisfaite, je sombre dans l'ennui. Parce que je suis en manque de désir. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est que pour que l'homme arrête de souffrir, il faudrait qu'il arrête de désirer, mais une fois qu'il n'a plus de désir, il s'ennuie. Et l'ennui, voilà, c'est comme chez Pascal, hein, c'est le fait de se retrouver seul avec soi-même, de se rappeler qu'on est mortel, qu'on a une condition misérable, et du coup, y a rien de pire. Et voilà, et là, c'est le paroxysme du pessimisme ou du caractère tragique de la philosophie de Schopenhauer, c'est que ça le conduit à dire la vie oscille comme un pendule de gauche à droite entre la douleur et l'ennui.
Ouais, donc c'est pas vivre, très kiffant, ouais, la vie.
Non, c'est pas très kiffant du tout, parce que vivre, c'est ou souffrir ou s'ennuyer. Et même toute satisfaction n'est que la cessation d'un manque, donc c'est un bonheur qui est toujours relatif et qui est sur un mode négatif, parce que c'est la cessation d'un manque, mais un autre prendra la relève. Et même une fois qu'on a réussi à faire cesser ce manque, et ben on s'ennuie, donc c'est terrible. Donc il y a aucune positivité du bonheur. Il y a une positivité clair. Que de la souffrance. La souffrance est la règle, la joie est l'exception, et c'est une exception très éphémère qui vaut pas la peine d'un grand effort pour Schopenhauer.
Je sais pas vous, mais moi là j'ai envie de pleurer.
Oui, je comprends. C'est bon.
Il y a aucun, enfin comment dire, bon côté à l'ennui.
Non.
Enfin parce que je crois que c'est un philosophe italien.
Giordano Bruno.
Non, alors Gaspard, je suis pas sûr, mais Leopardi, je crois.
Ouais, non.
Qu'on a peut-être appelé un peu le Schopenhauer italien. Et donc qui lui par contre, je crois, dit que l'ennui, c'est quand même un moyen d'être en contact avec le néant, et donc il y a quand même
Oui, excusez-moi, je vais en parler un peu plus. En gros, le but d'une vie pour Schopenhauer, c'est d'arriver à ne plus vouloir. Et bon, du coup, ça doit se faire dans l'ennui, parce que, enfin, d'une certaine manière, parce que il faut prendre conscience de ce que c'est la vie, et ça peut se faire que dans l'ennui, c'est-à-dire, ou alors une réflexion, et c'est là que la raison intervient encore, hein, une réflexion sur ma souffrance. Par exemple, une très grande souffrance, on va pouvoir méditer dessus et se rendre compte que finalement, toute la vie, n'est que souffrance, quoi. Donc oui, effectivement, il peut y avoir une positivité de l'ennui, dans la mesure où elle permet le repos, où l'ennui permet le repos qui va permettre de réfléchir à ce que c'est que la vie. Oui, effectivement. Bon, alors, en tout cas, oui, effectivement, on a envie de pleurer, hein, je suis désolé, mais peut-être que un peu moins à la fin. Mais bon, rappelons-nous qu'on était dans une partie sur la femme. Que vient faire la femme là-dedans ?
Ouais.
En fait, la femme, pour Schopenhauer, c'est une sorte de ruse de la volonté. Parce que Bon, là, voilà, c'est un peu terrible. Donc, sa philosophie est un petit peu abâtardie par sa misogynie. Hein. C'est-à-dire qu'elle se, sa philosophie et sa misogynie se, s'influencent l'une l'autre. Mais bon, la femme, son rôle, c'est de venir tenter l'homme. c'est de venir lui procurer du désir sexuel.
D'accord.
Parce que l'homme, voulant assouvir ce désir sexuel, se révélera bientôt déçu. Donc c'est terrible, voilà, elle le déçoit. Mais surtout, le pire, c'est que potentiellement, un enfant naîtra de cette union. Et là, monsieur Fibien, je pense qu'il serait d'accord. Donc voilà, et pourquoi c'est terrible qu'un enfant naisse? Parce que les femmes, se faisant, en tentant les hommes, perpétuent l'humanité et donc la volonté. Et la volonté, c'est ce qui fait qu'on souffre. C'est ce qui fait que le monde est souffrance. Le monde comme volonté, c'est le monde comme souffrance en même temps. Voilà, les femmes permettent la perpétuation de l'humanité, le vouloir humain, et donc le monde comme volonté.
Et c'est particulièrement con, parce que les hommes aussi, ils le perpétuent. La femme toute seule, tu vois.
C'est sûr, mais théorie, pour Schopenhauer, c'est la faute des femmes. Les hommes ne seraient pas tentés s'il n'y avait pas des femmes.
D'accord.
Donc, de fait, où en étais-je? Oui, voilà. Avec la femme, le monde comme volonté s'assure qu'il pourra continuer de vouloir indéfiniment. C'est-à-dire, voilà, le monde comme volonté s'assure une sécurité, d'une certaine manière. Parce que, ayant acquis un intellect, il se dit, voilà, bon, je vais me servir de la femme pour perpétuer l'espèce humaine, et toutes les espèces même. Et comme ça, je pourrais continuer de vouloir dans mes phénomènes.
Donc la femme sera une sorte de suppôt du monde comme volonté.
Exactement. Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça.
Oui, monsieur Volonté, c'est un méchant, un peu.
Ouais, monsieur Volonté est un connard.
Un petit peu. Mais monsieur Volonté, à l'origine, est un vouloir aveugle. Il sait pas ce qu'il veut. Mais une fois qu'il s'est phénoménalisé, il sait qu'il veut continuer de vouloir dans ses phénomènes parce que c'est cool, parce qu'il a un intellect. Du coup, il peut savoir de manière précise ce qu'il veut. C'est-à-dire, le monde comme volonté, une fois qu'il s'est pas phénoménalisé, objectivé dans le monde comme représentation, c'est juste une force, comme ça, avec qui veut. C'est typiquement les torrents, les typhons, les tremblements de terre. Mais une fois qu'il se phénoménalise de manière encore plus adéquate,
mais il se phénoménalise par l'intermédiaire de l'humain, du sujet.
Voilà, exactement. Et des animaux aussi. En fait, dans les êtres animaux, il acquiert un entendement, et avec les humains, carrément un intellect, et du coup, il se donne encore plus de motifs de volonté. C'est-à-dire que vu que son but, c'est de vouloir indéfiniment, avec les êtres humains, il peut vouloir plein de choses à la fois. Parce qu'il peut c'est ce que je disais sur la réflexion. Il peut ne pas seulement vouloir dans l'instant présent, mais aussi dans le futur.
Ouais.
Donc en fait, ça lui plaît de se phénoménaliser dans l'humain, parce que là, au moins, il sait ce qu'il veut. Donc Monsieur Volonté n'est méchant que quand il y a des humains,
ouais,
que quand il se phénoménalise dans des humains, et notamment des femmes.
Très belle explication. Ouais.
Donc voilà. En fait, le problème, c'est que si le monde comme volonté continue de vouloir indéfiniment, la souffrance ne cessera jamais.
Ouais.
Et le salut pour Schopenhauer serait dans l'arrêt de tout vouloir. Parce qu'il faudrait que les phénomènes cessent de vouloir pour que le monde comme volonté devienne le monde comme nolonté. Donc ça, c'est un commentateur qui s'appelle Vincent Stanek qui emploie le terme, et je le trouve très juste.
Très moche, moi je trouve très moche.
Oui, la nolonté, c'est la négation de la volonté. C'est-à-dire que le monde comme volonté ne peut pas disparaître. Mais il peut devenir. C'est-à-dire, l'essence du monde ne peut pas disparaître. Il n'y a que le monde comme représentation qui peut disparaître. Mmh. Et pour ça, il faudrait que le monde comme volonté cesse de vouloir et devienne un monde comme nolonté, c'est-à-dire un ne pas vouloir. C'est-à-dire que son essence, parce que le fait, je veux dire, l'essence de vouloir, c'est soit de la volonté, c'est soit de vouloir, soit de ne pas vouloir. Et pour Schopenhauer, les phénomènes ont cette capacité, tellement leur intellect est élaboré, de comprendre cela et du coup de mortifier leur vouloir, pour que le monde lui-même ne veuille plus. Parce que vu que c'est lui qui veut à travers ses phénomènes, si ses phénomènes ne veulent plus, ça veut dire que c'est lui qui ne veut plus.
D'accord, ouais.
Bon, alors, donc en fait, voilà, le monde comme représentation, qui n'est là que pour garantir au monde comme volonté qu'il continue de vouloir, disparaîtrait. Et alors, on est là dans une conception bouddhiste, parce que ce serait le nirvana. Parce que, je le rappelle très sommairement, pour les bouddhistes, le salut n'est pas dans une réincarnation, comme chez les chrétiens, mais au contraire dans l'arrêt du cycle des renaissances successives.
C'est-à-dire qu'on renaît tant qu'on n'est pas, voilà, tant qu'on n'est pas au top.
Exactement. En fait, renaître, c'est être puni. C'est avoir échoué à trouver la voie du Bouddha, celle de l'existence authentique, et c'est donc continuer indéfiniment de souffrir. Et voilà, le salut, c'est le nirvana, c'est-à-dire le néant en sanskrit, et les femmes, qui sont des russes de la volonté ou de l'espèce, empêchent le monde de s'interrompre, et donc d'atteindre le nirvana.
Putain, il est sacrément taré, ouais, quand même, le type. Et oui, et sur les femmes et les nirvana, à ce propos, on a un autre voilà, grand penseur que nous avons nommé Doc Gynéco.
Et ouais.
Hey, Salut mon gars, tu sors de prison, dis-moi comment ça va. Tu veux que je t'enregistre les nouveaux sons, le dernier ministère et la première consultation. Tu veux être à la page avant de rejoindre l'entourage de ceux qui boivent du 12 ans d'âge. Prisonnier du quartier, pris dans la fonte, plus rien ne m'étonne, plus rien ne me fait bander. Depuis que j'ai la tête collée sur une pochette, certaines font semblant de ne pas me reconnaître, d'autres me guettent, sans tête m'embêtent, alors je les pète, ouais. Et tout est si facile quand on marche dans sa ville, même les bleus pour moi sont en civil. Je veux changer d'air, changer d'atmosphère, je vais me foutre en l'air comme Patrick Devers, me droguer aux aspirines façon Marilyn. Il faut que je me supprime comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana comme Bérégo voit, clic clic boum, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana, c'est donc ça la vie, c'est pour ça qu'on bosse. Voir son gosse traîner dans le quartier dans une poche, les feuilles OCB dans une chaussette, la boulette à effriter, une cage d'escalier et le tout est roulé. Mais stone, le monde est stone, il y a plus de couches d'ozone et les seins des meufs sont en silicone. Tu rêves de pèse, fini le gaze et 1, 2, 3, tu m'emmènes avec toi. 4, 5, 6, cueillir du vice, 7, 8, 9, dans ton cabriolet neuf. J'ai connu les bandes, les gangs, les meufs de gang bang et les gros bang 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 dans la tête de mes amis. N'y pense même pas si tu tiens à ta vie. J'ai troqué ma famille contre ses amis et je me moque de ton avis. Je veux me doper à la Maradona car je suis triste comme le clown Zapata. Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana comme Bérégo voit, clic clic boum, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana. Le docteur ne joue plus au fraudeur, j'achète des tickets par simple peur d'avoir à buter un contrôleur. Je flirte avec le meurtre, je flirte avec mon suicide. Vive le volontaire homicide. Je ne crois plus en Dieu et deviens nerveux. Allah, Krishna, Bouddha ou Jéhovah, moi j'opte pour ma paire de Puma. Elle guide mes pas à pas, j'ai fait le bon choix et j'y crois. Je n'ai pas touché mais caressé tous mes rêves. Je demande une trêve, le toc est en grève. Plus rien ne me fait kiffer, plus rien ne me fait marrer. De la fille du voisin, je suis passé à de jolis mannequins très convoités. Ma petite amie, elle est belle, elle est bonne, elle s'appelle Brandy Kinnon. Si tu veux, je te la donne, car plus rien ne m'étonne. J'en ai marre des meufs, j'en ai marre des keufs. C'est toujours la même mouille, toujours les mêmes fouilles. Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana comme Bérégo voit, clic clic boum, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat.
De Doc Gynéco pour parler du Nirvana de Schopenhauer. Et oui, 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 le Nirvana qui est en train de nous dépeindre un peu, monsieur Eugenio Negro, le Nirvana là, non pas de cette pensée, mais le Nirvana qu'il faut parvenir à atteindre, hein, selon Schopenhauer. Le but de l'existence, c'est d'atteindre le Nirvana. C'est donc ça, monsieur Yonegro.
Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. C'est le salut, quoi, on pourrait appeler ça comme ça. Oui, avant de passer à la dernière leçon, Monsieur Zyglig Kwaftou me faisait remarquer, pendant qu'on écoutait ce sublime morceau du doc, que ça fait un peu Freud tout ça. Et effectivement, parce que voilà, Schopenhauer, on peut remarquer que d'une part, il naturalise l'esprit. C'est-à-dire que voilà, l'esprit est fait de pulsions. Voilà, il est troublé par l'instinct sexuel, par toutes sortes de...
De causes extérieures,
de pulsions, voilà, causes extérieures. Et on peut aussi souligner qu'avant Schopenhauer, il y a quand même assez peu de philosophes qui accordaient une place aussi prépondérante justement à l'instinct sexuel. Et Freud, je sais plus exactement où c'est, je crois que c'est dans la préface de la métapsychologie, mais je suis pas du tout sûr, revendique l'héritage de Schopenhauer en disant qu'effectivement, pour lui, c'est le premier à avoir autant naturalisé l'esprit et à accorder une telle importance philosophique à l'instinct sexuel. Bon, voilà. Alors, cet intermède fait, on va bientôt pouvoir passer à la dernière leçon, qui est la quatrième, pardon. Mais ce que je voulais dire, en fait, à propos de, voilà, c'est qu'en fait, enfin, à propos de tout ce qu'on a dit sur les femmes, c'est que, en fait, en se faisant thug contre les femmes, on voit bien que Schopenhauer se fait thug contre l'existence tout entière. Et c'est pour ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, malgré son côté réactionnaire, c'est ce que je vais essayer de montrer là dans la dernière leçon. En fait, c'est peut-être le plus rebelle de tous les penseurs parce que
vous m'intéressez, monsieur Yonégro.
Et oui, parce que il n'est pas révolutionnaire seulement contre une idéologie, un parti, un gouvernement, un État, mais il est révolutionnaire. Il se révolte contre l'existence tout entière, contre tout. Bon, c'est un.
Il se rebelle contre monsieur Volonté, finalement.
Oui, voilà, monsieur Volonté qui est tout.
Et j'avais juste une remarque à faire, si vous permettez, monsieur Yonégro, sur la femme. Si on essaie de sortir de cette misogynie malsaine un peu de Schopenhauer qui peut s'expliquer par son rapport avec sa mère et qui est sans doute tout à fait véridique, peut-être que voilà, de présenter la femme comme un peu un ressort essentiel de ce qu'on a appelé monsieur Volonté, quoi, pour faire souffrir les hommes, c'est peut-être parce que la femme, c'est une sorte de paradigme du désir, quoi. C'est le vouloir la femme, c'est ce qu'on peut, surtout au 19e siècle, peut-être, je sais pas, parce que maintenant aussi on veut des hommes, enfin, peut-être que le désir s'est élargi, mais vouloir la femme, peut-être pour un homme, c'est voilà, c'est l'essence même du désir, c'est ce qui permet à Schopenhauer de se faire comprendre à ses lecteurs, quoi. Aussi, quand il parle du vouloir de la femme, que c'est la femme qui motive le désir en premier lieu et qui c'est elle qui perpétue le malheur du monde. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être si on essaie de racheter un peu Schopenhauer.
Oui, oui,
mais
c'est
bon. Voilà.
C'est un peu ça, c'est-à-dire que de tous les objets du désir qui meuvent les hommes et les font souffrir, l'objet du désir par excellence, c'est la jolie femme.
Voilà, pour le...
voilà. Bon, ouais. Oui, effectivement. Alors, voilà, avant de passer à la quatrième leçon, je voulais juste mentionner quelque chose que j'ai oublié, c'est que aussi, pour Schopenhauer, si on cache nos parties génitales, et si, par exemple, les amoureux ne s'accouplent pas en public et ont honte de se montrer, et que même nous, on a honte de les voir, c'est parce que, pour Schopenhauer, au plus profond de nous, on sent que par leurs gestes, ils sont responsables de toute la misère du monde. Et là, j'ai un extrait de l'art de l'insulte qui explicite bien cette idée. Qui est assez court, c'est « Au milieu de la mêlée, nous voyons se rencontrer, nostalgique, le regard de deux amoureux. Mais pourquoi si secret, craintif et furtif ? Parce que ces amoureux sont les traîtres qui aspirent secrètement à perpétuer toutes ces difficultés et cette vie de galère qui trouverait sans eux une fin prochaine. » Un terme qu'ils veulent faire échouer comme leurs semblables l'ont fait échouer avant eux.
Ouais.
Voilà, donc quatrième et dernière leçon, un thug contre l'existence tout entière. Alors, Comme je l'ai dit, l'enjeu, c'est d'arriver à ne plus vouloir. La solution n'est pas, de fait, comme le préconise le doc, de se foutre en l'air, comme Patrick Devers.
Ouais, c'est ça.
C'est parce que ce n'est pas ainsi qu'on atteindra le nirvana. Alors pourquoi ? Ça peut paraître ultra paradoxal.
Oui, parce que c'est ce que j'ai envie de me dire. Hein, voilà, pourquoi il ne se suicide pas, quoi, s'il en a marre de vivre
Exactement. Surtout que, quand il dit la volonté, c'est un synonyme de la volonté de vivre. Parce que vivre, c'est continuer de vouloir. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme... qu'est-ce que c'est que le contraire de la volonté de vivre ? C'est la volonté de mourir.
Bah ouais.
Sauf que non. Le contraire de la volonté de vivre, c'est le ne pas vouloir. Parce que la volonté de mourir, c'est encore de la volonté. Donc c'est encore une affirmation de la volonté.
Oui, mais qui après, ça met fin au cycle, j'ai envie de dire. Mais
et non, justement. On retrouve ça chez les bouddhistes. Hein. Ce n'est pas une fin adéquate, parce qu'on n'a pas atteint une existence authentique.
D'accord.
Parce que, en gros,
c'est un échec.
La réincarnation est assurée si on se suicide. Mmh. Et la perpétuation de la souffrance. En fait, le suicide, c'est encore un acte de la volonté, puisque je veux ne plus vivre. Et pour Schopenhauer, on refuse moins l'existence en général, quand on se suicide, que cette existence-là, la nôtre, ses conditions et ses mots quand on se suicide. En fait, on aurait voulu d'une autre existence, et comme c'est impossible, on se suicide. Mais même une autre existence n'eût pas été préférable pour Schopenhauer. Et c'est ça qu'il faut bien voir à l'esprit, puisque les petits instants de joie que l'on connaît dans une vie ne sont rien en comparaison des malheurs de l'existence en général, et les joies découlent bien vite sur l'insupportable ennui. Bon, ça peut paraître un peu choquant aussi comme point de vue, parce que, ça peut paraître un peu scandaleux, mais oh, le suicide, qu'est-ce que vous faites? Bon. Mais voilà, pour lui, c'est une fin inadéquate, parce que c'est encore une affirmation de la volonté, aussi paradoxale que ça puisse paraître.
Ouais, d'accord.
Je veux ne plus vivre, je veux mourir, mais je veux encore quelque chose. Et ce qu'il faut, c'est arriver à ne plus rien vouloir.
D'accord.
Alors, les solutions de fait pour échapper à l'emprise de la volonté, il y en a deux. Il y en a une qui est, j'arrive plus à trouver mes mots, qui ne dure pas, qui est éphémère, voilà, merci. Il y en a une qui est éphémère et il y en a une autre qui permettra, qui dure, qui est la bonne. Alors la première, et c'est là que je trouve vraiment la philosophie de Schopenhauer très belle, et d'ailleurs il y a un de ses biographes qui dit à ce propos que c'est de tous les philosophes celui qui a accordé le plus d'importance à l'art. Et bon, voilà, c'est la partie sur l'art et la contemplation. C'est tout le livre 3 du Monde comme volonté et représentation. C'est absolument magnifique, chers auditeurs, si vous voulez lire ça.
Donc on va peut-être entrer, enfin, commencer à comprendre pourquoi ce mec est pas tout à fait un connard fini à jeter.
Ouais. C'est-à-dire que bon, l'homme en lui-même, il n'y a aucun doute que c'est un petit connard. Mais son système philosophique, c'est d'une beauté sans nom pour même s'il reste tout cette partie sur la misogynie.
Allons-y, on vous suit.
Voilà, alors. Donc, la première solution pour échapper à l'emprise de la volonté, c'est l'art et la contemplation. Parce que par le regard du génie, que ce soit par le regard du génie observant la nature ou celui de l'amateur d'art contemplant l'œuvre qui découle du regard du génie, le sujet humain peut, l'espace d'un instant, cesser de vouloir pour être dans la pure contemplation. Il a un rapport purement intellectuel au monde à ce moment-là. Mmh. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on peut dire que quand on contemple une belle œuvre, c'est de l'intuition, c'est de la sensibilité qui est en jeu. Mais non, pour Schopenhauer, c'est de l'intuition. Et l'intuition est toujours intellectuelle. Donc c'est un rapport purement intellectuel. Et vu qu'il y a un antagonisme profond entre volonté et intellect, la volonté disparaît et il n'y a que l'intellect qui demeure. La volonté disparaît. La volonté ne disparaît jamais. C'est le vouloir, c'est-à-dire le fait de désirer qui n'est plus là. Et la volonté est, comme j'ai dit tout à l'heure, une sorte de non-volonté à ce moment-là. Bon. Donc c'est un rapport purement intellectuel au monde. Parce que, en fait, Schopenhauer explique assez bien, je trouve d'ailleurs, qu'un objet beau, on ne le désire jamais. On le contemple. Et d'ailleurs, c'est la différence qu'il fait, et je la trouve assez juste, entre le beau et le joli. Et je ne sais pas si vous serez d'accord, cher chroniqueur, mais une belle personne, spontanément, on est plutôt fasciné, voire même un peu effrayé. On ne la désire pas spontanément. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Oui, c'est possible. Oui, ça se tient.
En tout cas, via la contemplation, quelque chose de très fort se produit, puisque pour Schopenhauer, j'atteins une vérité du monde en percevant la volonté dans son objectivation la plus adéquate. Donc là, c'est un peu technique. L'objectivation la plus... il y a des stades d'objectivation de la volonté, comme je dis, ou de phénoménalisation.
Ouais.
Les forces primitives, les végétaux, les animaux, les humains. Mais l'objectivité la plus adéquate, ce sont les idées platoniciennes. Par exemple, si on prend le tableau Le Cri, que vous connaissez, j'imagine. On peut dire que ce qu'on voit quand on perçoit ce tableau, ce n'est pas un cri particulier, mais le cri en général, le cri en soi, ouais, l'idée du cri, exactement. Et en fait, ce faisant, en percevant le monde dans ses idées à travers la belle œuvre d'art, ou la nature, même un beau paysage, j'intuitionne que le monde est volonté et surtout que je suis moi-même la volonté se contemplant elle-même dans ses idées et qui, l'espace d'un instant, cesse de vouloir. Parce qu'il faut quand même se rappeler que je suis moi-même le monde comme volonté. Et en fait, quand le monde comme volonté arrive à se connaître adéquatement dans ses idées, en se contemplant elle-même par mon regard, elle cesse de vouloir, pardon. Et ça, c'est une forme de joie suprême. C'est vraiment la fascination devant la belle œuvre, quoi. Bon. Et en fait, quand je cesse de vouloir, j'adopte un regard désindividuant. C'est-à-dire que l'espace d'un instant, je cesse d'être individu pour devenir le monde tout entier, ou ce qu'il appelle le pur sujet de la connaissance. En fait, j'intuitionne que voilà, moi-même, je suis le monde tout entier, et en fait, cette idée me fait un bien profond. Mais voilà, malheureusement, ce n'est qu'un instant d'extase, parce que mon vouloir finira vite par reprendre le dessus quand je détournerai mon regard, en fait. Mais cet instant est, je pense qu'on peut le dire, un instant de bonheur. Et en fait, à propos de ça, Schopenhauer dit que l'art est un calmant. Et là, bon, vu qu'on est quand même dans une émission rap, littérature et révolution, il faudrait peut-être adresser un petit mot sur la littérature. Le calmant, il faut souligner que c'est quand même un thème qui revient énormément chez un auteur que j'affectionne particulièrement, qui est Samuel Beckett. Et Beckett qui, on le sait, était un grand lecteur de Schopenhauer. Le calmant, c'est... Vous avez étudié fin de partie, peut-être au lycée, j'imagine. Où est mon calmant ? Clove demande sans cesse ça. Ce n'est pas l'heure de mon calmant. Et c'est aussi le titre d'une des nouvelles de Beckett. Et voilà, et on peut dire que le calmant, c'est le fait d'écrire d'une certaine manière.
Mais ça nous sauve pas finalement si c'est qu'un calmant.
Non, ça nous sauve pas. Et même le génie n'est pas sauvé parce que lui, bon, il arrive à se calmer de temps en temps, mais ça nous sauve pas parce que la volonté demeure. Non, mais bon, c'est un premier échappatoire et c'est voilà quand même un moment de bonheur dans la vie.
D'accord.
Bon. Par rapport, là on a surtout parlé de l'art visuel quand même, hein, des arts plastiques, mais en fait il faut noter qu'il y a une hiérarchie des arts chez Schopenhauer. Et ce qui n'était pas du tout rare pour la philosophie esthétique de l'époque, Hegel en faisait lui aussi, mais ce qui est très original, c'est que le sommet des arts, c'est la musique. Et la musique, là c'est tout à fait beau aussi, c'est la musique pour Schopenhauer, elle est une expression directe, mais vraiment directe de la volonté, c'est-à-dire sans l'intermédiaire des idées. En fait, comme le monde comme représentation lui-même, elle est l'expression la plus fidèle de la volonté, au point qu'elle pourrait exister, nous dit Schopenhauer, même si le monde n'existait pas. Le monde comme représentation. Ouais. C'est-à-dire, dans la volonté, on sent... dans la musique, on sent tout de suite toutes les modalités de la volonté. Enfin, pas toutes, mais par exemple, un morceau triste, pour lui, enfin voilà, tout le monde va le trouver triste de manière universelle. Et du coup, c'est l'idée même de tristesse, et c'est la volonté qui s'incarne directement. Son expression la plus directe. Il n'y a même pas l'idée derrière. Bon, voilà, ça c'est la première solution pour échapper à l'emprise de la volonté. Mais, comme vous l'avez bien souligné, Monsieur Tuck, comment faire pour ne plus vouloir définitivement, pour être sauvé ? Alors pour ça, il faut en fait mortifier son vouloir et fuir les plaisirs. C'est-à-dire qu'il faut se faire ascète ou sage.
Alors là, ça n'a pas l'air drôle.
Non, ça n'a pas l'air drôle, parce que ça suppose, dans un premier temps, la chasteté. Voilà, mortifier son vouloir, c'est-à-dire ne plus rien vouloir, essayer de plus avoir de désir. Mais par contre, ce qui est plus sympathique, c'est que ça passe pour lui, dans un premier temps, par la compassion, le sentiment de... C'est-à-dire que le seul motif de ma volonté, ça doit être le bien d'autrui, ça doit être l'aide aux autres. Ce qu'il faut, en fait, pour arriver à ne plus vouloir, il s'agit aussi d'endosser les souffrances des autres. Et du coup, la passion de charité doit être le seul moteur. Dans un premier temps, c'est ça. J'endosse les souffrances du monde à l'image d'un saint, du Christ, par exemple.
Ouais.
Et jusqu'à ce que j'arrive à être suffisamment dégoûté de la vie, finalement, en fait, en faisant ça, je me rends compte que la souffrance est partout, qu'elle est vraiment partout et qu'elle est le moteur du monde. Et en fait, une fois que j'aurai fait ça, j'arriverai à ne plus rien vouloir. Et en fait, à force de ne plus rien pouvoir, je pourrais réussir à me laisser mourir. Donc finalement, il y a un suicide qui est adéquat pour atteindre le nirvana, c'est le suicide par inanition. C'est le fait de se laisser mourir. Et ça, c'est une félicité suprême pour Schopenhauer. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appelé modestement dans ma thèse d'état, n'est-ce pas, une mort heureuse, qui est d'ailleurs un titre d'un livre de Camus, qui je crois est la première esquisse de L'étranger. Camus qui, bon, ne revendique pas l'héritage schopenhauerien, mais il y a quand même des passerelles à faire. Voilà.
C'est-à-dire, alors, j'endosse la souffrance, en gros, du monde, enfin des autres, ouais. En tout cas, À partir de ce moment-là, je suis en quelque sorte dégoûté du monde. Donc, j'annule mes désirs et je me laisse mourir. Et là, je suis content.
Voilà.
Waouh.
Ouais, ouais, ouais. C'est paradoxal. Et non, et ce qui est fou, c'est que bon, voilà, c'est quand même très désenchanté. Et, mais il y a quand même un plaisir à la clé. Mais ça, mais c'est du bouddhisme pur jus. Hein. C'est dans le bouddhisme, c'est ça la clé du bonheur aussi.
Ok.
Voilà. Donc. Voilà, c'est pour dire que bon, on a quand même pu montrer qu'il y a énormément de côtés de gros thugs misanthropes qui clashent à tout va, mais il y a quand même une très belle philosophie derrière, aussi désenchantée soit-elle. Donc, bon, avant d'en finir et de passer à la lecture d'un texte de Maupassant, je me suis dit que comme on a pu faire quelques parallèles avec le rap et les rappeurs, à travers la question de la thuguitude, il resterait peut-être à aborder rapidement la question de la littérature et de la révolution.
Bien sûr.
Alors, pour la Révolution, malheureusement, j'ai dit tout à l'heure, Schopenhauer peut être vu comme un énorme réac. Parce que il a notamment, je l'ai dit tout à l'heure, hein, aidé des soldats à mater les révolutionnaires en 48, en les faisant monter sur son toit et leur prêtant sa lunette. Donc ouais, c'est un petit enculé. Donc, mais ce qui est fou, c'est que là aussi, on peut peut-être trouver une explication dans sa philosophie.
Non, mais faut arrêter de lui trouver des explications.
Eh oui, c'est ce que dirait Manuel Valls. Hein, mais en fait, Schopenhauer a une conception cyclique du temps. Et pour lui, l'histoire, et c'est pour ça que aussi Hegel, il trouve ça du grand n'importe quoi. L'histoire, ce n'est que l'éternel recommencement du même. C'est le recommencement de la volonté s'objectivant dans ces phénomènes. Ouais. Voilà. Et du coup, pour lui, toutes les révolutions échoueront à rendre les hommes plus heureux. Parce qu'il vaut mieux, finalement, demeurer en repos, qui est la condition de l'ascèse et de la mort heureuse, à défaut de la vie heureuse. Mais du coup, on peut dire que d'une certaine manière, c'est quand même un révolutionnaire à un point extrême, parce que c'est un révolté métaphysique, comme dirait
Camus. Oui, d'accord, mais ça, moi, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'en fait, ça, finalement, sa philosophie, c'est la clé d'entrée. Dans la pensée réactionnaire même, ouais, quoi. Ouais, c'est la réaction même, quoi. Puisque attendons de nous laisser mourir, ne changeons rien, ça sert à rien, il y a la volonté qui est toujours là. Ça ne change rien, enfin oui.
Non, mais c'est vrai que c'est effectivement la réaction, c'est ça. C'est une réaction face à la souffrance. Et oui, non, mais c'est terrible. C'est-à-dire que pourquoi on peut quand même essayer de s'assurer au moins une joie matérielle, enfin, une souffrance qui soit la moins pénible possible. Bon, oui, non,
pas
mais
pour
ça,
lui, pas pour lui.
Ouais, ça, c'est effectivement aussi dommage. Et voilà.
Non, je suis d'accord avec vous, si vous voulez qu'il ait, voilà, un révolté métaphysique, finalement.
Oui, oui. Mais bon, ça veut pas dire révolutionnaire. Révolté, révolutionnaire, c'est pas la même chose.
C'est vrai.
Bon, et voilà. Et pour finir, on peut parler un peu littérature, très rapidement, en disant que Schopenhauer a eu une énorme influence sur, en fait, une quantité astronomique d'écrivains. Je pensais pas que c'était à ce point-là dans mes recherches. J'ai vu que, bon, je savais pour Maupassant,
oui,
qui revendique vraiment, on va lire un texte avec Monsieur Fibien qui montre vraiment toute l'influence de Schopenhauer sur Maupassant. Mais il y a aussi Proust, Thomas Mann, Tolstoï, Kafka, Borges, qui revendiquent tout son héritage explicitement et leur admiration pour lui. J'ai noté aussi au passage Charlie Chaplin. Voilà, Beckett, je l'ai dit, c'est plus implicite, mais on sait qu'il le lisait beaucoup. Et on l'a dit tout à l'heure, il a beaucoup influencé Freud. Mais voilà, en fait, c'est aussi ce qui lui a valu le qualificatif de philosophe pour littéraire, certainement.
bon, par rapport, je sais pas si c'est très flatteur, finalement.
Non, dans la bouche des philosophes, c'est pas flatteur du tout.
Ouais,
mais par rapport à Beckett, je me disais, bon, on pourrait peut-être en parler plus longuement une prochaine fois, mais ce qui est intéressant avec Beckett, c'est que finalement, même s'il y a une conception très désenchantée du monde, il arrive à trouver un autre échappatoire au caractère absurde de l'existence que l'ascèse, finalement. Et c'est avec le rire.
Ouais.
C'est super, ça. C'est vraiment rire de cette condition, et c'est un rire cathartique.
Ouais, Beckett, c'est Schopenhauer qui a réussi, quoi.
Ouais, on pourrait dire la même chose de Nietzsche. Hein. Nietzsche a pris l'héritage de Schopenhauer pour le réfuter, et finalement, a essayé de montrer que c'était du nihilisme et que la souffrance, il y avait une positivité de la souffrance. Bon, Schopenhauer dit aussi qu'il y a une positivité de la souffrance parce que c'est ce qui nous fait prendre conscience que le monde est à chier.
Ouais.
Mais chez Nietzsche, il y a une positivité de la souffrance dans la mesure où elle est la condition d'une joie, d'une grande joie, quoi. C'est la volonté de puissance. C'est toujours, voilà, Nietzsche passe de la volonté à la volonté de puissance en essayant de montrer que il y a une positivité de la souffrance qui permet d'atteindre la puissance, quoi. Alors, juste avant de passer au texte de Maupassant, on pourrait peut-être lire la lettre de Tolstoï. Donc voilà, dans laquelle il dit tout son enthousiasme pour Schopenhauer, pour leur salle de lecture. Savez-vous ce qui m'est arrivé cet été? un émerveillement incessant à lire Schopenhauer et une abondance de joie intellectuelle comme je n'en avais encore jamais éprouvé. Je me suis envoyé toutes ses œuvres et j'ai lu et je lis encore. Kant également, du reste. Je suis bien sûr qu'aucun étudiant n'a appris autant en un semestre que moi durant cet été. Je ne sais pas si je changerai encore d'avis par la suite, mais pour le moment, je suis convaincu que Schopenhauer est le plus génial des hommes. Vous dites qu'il est comme ci, comme ça, qu'il écrit certaines choses sur la philosophie. Comment ça, certaines choses? C'est le monde tout entier dans une incroyablement belle et lumineuse réplique. J'ai commencé à le traduire. Ne voulez pas vous y mettre vous aussi? Nous le publierons ensemble. Quand je le lis, je ne comprends pas que son nom ait pu rester inconnu. Je ne trouve qu'une seule explication, celle dont il s'est lui-même si souvent servi, que le monde est presque uniquement peuplé d'idiots.
Ah oui, et donc là, Tolstoï, il écrit à qui?
Je sais pas, malheureusement. J'ai chopé la lettre. Sur... Bon. Voilà, et bon, bah, pour finir cette émission qui aura été un petit peu longue.
Magnifiquement belle et instructive.
Merci beaucoup, c'était le but.
Comme le monde, comme volonté.
Voilà. On peut lire avec Monsieur Fibien un extrait d'une nouvelle de Maupassant, qui est assez fameuse, qui est intitulée Auprès d'un mort. Voilà, c'est un hommage de Maupassant. Petite lecture.
Magnifique texte.
Il s'en allait mourant comme meurent les poitrinaires. Je le voyais chaque jour s'asseoir, vers 2 heures, sous les fenêtres de l'hôtel, en face de la mer tranquille, sur un banc de la promenade. Il est resté quelque temps immobile dans la chaleur du soleil, contemplant l'œil morne de la Méditerranée. Parfois, il jetait un regard sur la haute montagne au sommet vaporeux qui enferme Menton. Puis, il croisait, d'un mouvement très lent, ses longues jambes si maigres qu'elles semblaient deux os, autour desquelles flottait le drap du pantalon, et il ouvrait un livre toujours le même. Alors, il ne remuait plus. Il lisait. Il lisait de l'œil et de la pensée. Tout son pauvre corps expirant semblait lire. Toute son âme s'enfonçait, se perdait, disparaissait dans ce livre jusqu'à l'heure où l'air rafraîchi le faisant un peu tousser. Alors il se levait et rentrait. C'était un grand Allemand à barbe blonde qui déjeunait et dînait dans sa chambre et ne parlait à personne. Une vague curiosité m'attira vers lui. Je m'assis un jour à son côté, ayant pris aussi, pour me donner une contenance, un volume des poésies de Musset. Et je me mis à parcourir Rollin. Mon voisin m'a dit tout à coup en bon français.
Savez-vous l'allemand, monsieur ?
Nullement, monsieur.
Je le regrette. Puisque le hasard nous met côte à côte, je vous aurais prêté. Je vous aurais fait voir une chose inestimable, ce livre que je tiens là.
Qu'est-ce donc ?
C'est un exemplaire de mon maître Schopenhauer, annoté de sa main. Toutes les marges, comme vous le voyez, sont couvertes de son écriture.
Je pris le livre avec respect et je contemplais ces formes incompréhensibles pour moi, mais qui révélaient l'immortelle pensée du plus grand saccageur de rêves qui ait passé sur la terre. Et les vers de Musset éclatèrent dans ma mémoire. Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes eaux décharnées? Et je comparais involontairement le sarcasme enfantin, le sarcasme religieux de Voltaire, à l'irrésistible ironie du philosophe allemand dont l'influence est désormais ineffaçable. Qu'on proteste ou qu'on se fâche, qu'on s'indigne ou qu'on s'exalte, Schopenhauer a marqué l'humanité du sceau de son dédain et de son désenchantement. Jouisseur désabusé, il a renversé les croyances, les espoirs, les poésies, les chimères, détruit les aspirations, ravagé la confiance des âmes, tué l'amour, abattu le culte idéal de la femme, crevé les illusions des cœurs, accompli la plus gigantesque besogne du sceptique qui ait jamais été faite. Il a tout traversé de sa moquerie et tout vidé. Et aujourd'hui même, ce qu'il exècre semble porter, malgré eux, en leurs esprits, des parcelles de sa pensée. « Vous avez donc connu particulièrement Schopenhauer, » dis-je à l'allemand. Il sourit tristement.
« Jusqu'à sa mort, monsieur. »
Et il me parla de lui. Il me raconta l'impression presque surnaturelle que faisait cet être étrange à tous ceux qui l'approchaient. Il me dit l'entrevue du vieux démolisseur avec un politicien français, républicain doctrinaire, qui voulut voir cet homme et le trouva dans une brasserie tumultueuse, assis au milieu des disciples secs, ridés, riant d'un inoubliable rire, mordant et déchirant les idées et les croyances d'une seule parole, comme un chien d'un coup de dent déchire les tissus avec lesquels il joue. Il me répéta le mot de ce français, s'en allant effaré, épouvanté, et s'écriant « J'ai cru passer une heure avec le diable ». Puis il ajouta «
Il avait en effet, monsieur, un effrayant sourire qui nous fit peur, même après sa mort. C'est une anecdote presque inconnue que je peux vous conter si elle vous intéresse. »
Et il commença d'une voix fatiguée que les quintes de toux interrompaient par moments.
Schopenhauer venait de mourir, et il fut décidé que nous le veillerons tour à tour, deux par deux, jusqu'au matin. Il était couché dans une grande chambre très simple, vaste et sombre. Deux bougies brûlaient sur la table de nuit. C'est à minuit que je pris la garde avec un de nos camarades. Les deux amis que nous remplacions sortirent et nous vîmes nous asseoir au pied du lit. La figure n'était point changée. Elle riait. Ce pli que nous connaissions si bien se creusait au coin des lèvres, et il nous semblait qu'il allait ouvrir les yeux, remuer, parler. Sa pensée, ou plutôt ses pensées, nous enveloppaient. Nous nous sentions plus que jamais dans l'atmosphère de son génie, envahi, possédé par lui. Sa domination nous semblait même plus souveraine maintenant qu'il était mort. Un mystère se mêlait à la puissance de cet incomparable esprit. Le corps de ces hommes-là disparaît, mais ils restent, eux. Et dans la nuit qui suit l'arrêt de leur cœur, je vous assure, monsieur, qu'ils sont effrayants. Et tout bas, nous parlions de lui, nous rappelant des paroles, des formules, ces surprenantes maximes qui semblent des lumières jetées par quelques mots dans les ténèbres de la vie inconnue.
Il me semble qu'il va parler,
dit mon camarade. Et nous regardions avec une inquiétude touchant à la peur ce visage immobile et riant toujours. Peu à peu, nous nous sentions mal à l'aise, oppressés, défaillants. Je balbutiais. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je t'assure que je suis malade. Et nous nous aperçûmes alors que le cadavre sentait mauvais. Alors mon compagnon me proposa de passer dans la chambre voisine en laissant la porte ouverte, et j'acceptai. Je pris une des bougies qui brûlait sur la table de nuit et je laissai la seconde, et nous allâmes nous asseoir à l'autre bout de l'autre pièce de façon à voir de notre place le lit et le mort en pleine lumière. Mais il nous obsédait toujours. On eût dit que son être immatériel, dégagé, libre, tout-puissant et dominateur rôdait autour de nous. Et parfois aussi l'odeur infâme des corps décomposés nous arrivait, nous pénétrait, écœurante et vague. Tout à coup, un frisson nous passa dans les os. Un bruit, un petit bruit était venu de la chambre du mort. Nos regards furent aussitôt sur lui et nous vîmes, oui monsieur, nous vîmes parfaitement l'un et l'autre, quelque chose de blanc courir sur le lit, tomber à terre sur le tapis et disparaître sous un fauteuil. Nous fûmes debout, avant d'avoir eu le temps de penser à rien, fous d'une terreur stupide, prêts à fuir. Puis nous nous sommes regardés, nous étions horriblement pâles. Nos cœurs battaient à soulever le drap de nos habits. Je parlais le premier. Tu as vu ?
Oui, j'ai vu.
Est-ce qu'il n'est pas mort ?
Mais puisqu'il entre en putréfaction.
Qu'allons-nous faire ? Mon compagnon prononça en hésitant.
Il faut aller voir.
Je pris notre bougie et j'entrai le premier, fouillant de l'œil toute la grande pièce au coin noir. Rien ne remuait plus et je m'approchai du lit. Mais je demeurai saisi de stupeur et d'épouvante. Schopenhauer ne riait plus. Il grimaçait d'une horrible façon, la bouche serrée, les joues creusées profondément. Je balbutiais. Il n'est pas mort ! Mais l'odeur épouvantable me montait au nez, me suffoquait, et je ne remuais plus, le regardant fixement, effaré comme devant une apparition. Alors mon compagnon, ayant pris l'autre bougie, se pencha. Puis il me toucha le bruit sans dire un mot. Je suivis son regard et j'aperçus à terre, sous le fauteuil à côté du lit, tout blanc sur le sombre tapis, ouvert comme pour mordre, le râtelier de Schopenhauer. Le travail de décomposition, desserrant les mâchoires, l'avait fait jaillir de la bouche. J'ai eu vraiment peur ce jour-là, monsieur.
Et comme le soleil s'approchait de la mer étincelante, l'allemand physique se leva, me salua et regagna l'hôtel.
Et donc c'était un texte de Maupassant, une nouvelle, hein, c'est ça ?
Voilà, Auprès d'un mort.
Auprès d'un mort, qui date de 1883. Magnifiquement lu, à part nos deux compatriotes, compagnons, Eugenio Negro et Bertrand Rivière. Et donc voilà, hein, l'émission très très longue et très instructive touche à sa fin. Elle paraîtra en deux volumes aux éditions Arte Radio. C'est mon blog, voilà. Mountain was the Thug, Arte Radio. Allez écouter, allez podcaster. Continuez de suivre la plus rebelle des radios et d'écouter tous les lundis de 13 à 14. Enfin voilà, là c'était plutôt plutôt cette horaire-là. Mais de 13 à 14, sinon l'émission Mountain was the Thug. Donc on va se quitter sur un petit son de Peura, hein, que je laisse à Monsieur Negro le soin d'annoncer.
Oh, bien, il s'agit d'un morceau sur la ville d'où je viens, qui est Nîmes. C'est un morceau du groupe Senseiya intitulé Trambus. Je vous laisse savourer. Et merci beaucoup, Monsieur Thug.
Force et honneur. À mon signal, déchaîne les enfers.
À 1-2-3-0, c'est 1-2-3-0, c'est Nîmes, la capitale. Poteau, range ton piton, lâche les crocos, Lacoste.
Donne les royalties,
Lacoste.
Crache les royautés,
qu'on investisse dans le biz pour faire taire ceux qui nous boycottaient. On est là, on est plein, ouais, on est là, on est bien. On fait les choses, tu ne croyais pas, on accélère car on a trop faim. Que les choses soient claires, on est des terres, on est fils de prolétaires. Tu veux nous tester, sois pas fier, on te laisse en caleçon sur feu cher. Tu sais que les MC sont dans le gare, ouais, les b-boys sont dans le gare. Et les vrais font des coupoles, des Thomas sur le parvis du carré d'art. Il est grand temps de s'imposer, il est temps d'exploser. On est les petits frères à personne, on va marcher sur le rap français. On sort des Maxi, Maximus, Russell Crowe est dans l'arène. Liberta, Liberta, les esclaves ont brisé leurs chaînes. Ok, répu, république, c'est le son pour les rouillas. Les filles sont jolies, sont vrina, se baladant, vivent dans la Medina.
Nîmes, break it down, la résine elle vient du riff, cousin, cousine, mets-toi à l'aise si tu veux payer le tarif. Ici les punters se baladent, les légionnaires veulent se pétaler. Deux mondes se mélangent, c'est la Roumanie sur le Gambetta. On était là, après toi, et depuis on t'a plus vu. On a croisé Flo qui t'a reconnu dans la backroom du Lulu. Hemingway on sait pas qui c'est, Albert Camus on nous l'a pas dit. Diplômé de l'ancienne école de Camargue et Montauré.
Fournier pose-nous les rails,
Fournier pose-nous les rails, Fournier pose-nous les rails, qu'on fasse dérailler le tramway. La chaud lâche-nous la maille, la chaud lâche-nous la maille, la chaud lâche-nous la maille, qu'on fasse bugger le rap français. Fournier pose-nous les rails, Fournier pose-nous les rails, Fournier pose-nous les rails, qu'on fasse dérailler le tramway. La chaud lâche-nous la maille, la chaud lâche-nous la maille, la chaud lâche-nous la maille, qu'on fasse bugger le rap français.
1, 2, 3, 0, c'est 1, 2, 3, 0, c'est Nîmes, la capitale. Poteau, range ton piton, lâche les crocos, pousse le son à fond, pousse le son à fond. On en a marre d'entendre le son d'ailleurs qui résonne dans les caissons. Mets le son au taquet, mets le son au taquet. Sois pas choqué, c'est juste un morceau à prendre au second degré. Ici la Méditerranée, Senseiya est dans l'iPod, t'es rouge, le soleil te senga, ça vient de la ville la plus chaude. Cuisine à la rissa, de la loubia au bourgour. ZSP, Maninel, Val du Val de Marne, Val de Gour. CVCBA, on est encore là. Manu, ta mère et tout le monde se raccorda. C'est sur la corde à corde à l'aise qu'on tire notre épingle du jeu de Nîmes Musique. On a rien à foutre des commentaires des rageux. QG, QG, mon calme, mon charbon, n'en fais pas les beaux. Tandis que les gens qui posent des rails, mais pas ceux de Paulin, Talabo, ok, c'est Fournier, pose-nous les rails. Fournier, pose-nous les rails. Fournier pose-nous les rails, qu'on fasse dérailler le tramway. La chaud lâche-nous la maille, la chaud lâche-nous la maille, la chaud lâche-nous la maille, qu'on fasse bugger le rap français. Fournier pose-nous les rails, Fournier pose-nous les rails, Fournier pose-nous les rails, qu'on fasse dérailler le tramway. La chaud lâche-nous la maille, la chaud lâche-nous la maille, la chaud lâche-nous la maille, qu'on fasse bugger le rap français. Fournier pose-nous les rails, Fournier pose-nous les rails, Fournier pose-nous les rails, qu'on fasse dérailler le tramway. La chaud lâche-nous la maille, la chaud lâche-nous la maille, la chaud lâche-nous la maille, qu'on fasse bugger le rap français.
Tourne pose-nous les rails, tourne pose-nous les rails, qu'on fasse dérailler le tramway.
Je me fous d'être pas cool, fais chier d'être une fille. Je me fous d'être jolie, je me fous d'être pas cool, fais chier d'être une fille. Je veux pas d'un dandy, les tatous doudou c'est dead depuis mon tati. Je me fous d'être pas cool, je chier d'être une fille, je veux pas d'un dandy. L'état tout 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 c'était depuis mon tati. L'humanité cool. Ministre à la défense, garde là ta guerre. Too much bullshit, ce faux fuck. Le RNB où ça se trémousse à poil. Joue les saintes ni touche, soi-disant vierge. Qui ne connaît pas, qui ne savait pas.